efficacement vos projets en toutes circonstances grâce à une épargne sécurisée Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Il y a tout juste un mois, l'UNICEF publiait son dernier rapport sur la mortalité néonatale. Un document qui pointait le nombre élevé de décès de nouveau-nés à l'échelle mondiale, comme les inégalités en termes de chances de survie. Aujourd'hui, à travers un reportage que nous avons réalisé il y a une dizaine de jours au Bénin, Priorité Santé vous propose de découvrir comment, avec des ressources limitées et en s'adaptant aux spécificités locales, on peut agir sur cette hécatombe silencieuse. Cette ressource, elle est humaine, c'est le relais communautaire. Un agent de santé qui vit dans le village, car c'est souvent en milieu rural que son rôle va se révéler le plus pertinent. Un relais formé sur un nombre de compétences limitées, de gestes précis en termes de santé primaire, pour apporter des soins vitaux et tenter de rétablir sur le terrain davantage d'équité. La tournée de Crespin Ganzo, relais de santé communautaire dans le centre du Bénin, un reportage de Priorité Santé. Reportage réalisé avec le concours des équipes de l'UNICEF et du Fonds des Nations Unies pour la population à Cotonou et du soutien du Front français Muskoka pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Nous nous sommes rendus successivement dans la maternité dispensaire de Ounli sur la commune d'Abomey avant de rejoindre le village de Kodi. Cette zone sanitaire regroupe au total 3 communes et sur place, l'organisation du système de santé est hiérarchisée, hôpital de zone, centre de santé, un peu plus d'une centaine de kilomètres nous séparent de Cotonou, la capitale, le Bénin, un pays qui fait face à d'énormes défis en termes de mortalité infantile, comme l'explique Soliou Badarou, médecin chargé de la santé maternelle, néonatale et infantile au sein de la section survie et développement de l'enfant à l'UNICEF Bénin.
En moyenne, 105 enfants meurent au Bénin chaque jour, ce qui correspond à peu près à un Boeing 747. Et sur ces 105 enfants, 35 sont en moyenne sont des nouveau-nés. En une année, nous avons en moyenne 38 000 décès d'enfants de moins de 5 ans au Bénin. L'appui que nous donnons aux entités au Bénin ici, ce que nous appelons les zones sanitaires, vise à réduire essentiellement cette mortalité que je viens de décrire tout à l'heure, en ciblant d'abord les zones sanitaires les plus vulnérables. Deux départements essentiels, le département de l'Alibori et du Zou, font partie des zones d'intervention où nous avons les taux de mortalité infanto-juvénile les plus élevés. Ajouté à ça, nous avons une zone sanitaire dans la Takora et puis un quartier périurbain de Cotonou et une zone lacustre. Donc ça nous fait à peu près 19 communes sur les 77 les plus vulnérables au Bénin que nous avons soutenues depuis 2014 jusqu'en 2018.
Avec un maillage territorial, mais en même temps, on peut le dire, vraiment une insuffisance au niveau des personnels de santé.
Absolument. Il y a des communautés qui sont éloignées des structures de santé et ces communautés les plus vulnérables n'ont pas accès aux services de santé. C'est de là qu'est née la problématique des relais communautaires qui nous permet de prendre en charge les maladies les plus meurtrières de l'enfant, notamment le paludisme, la diarrhée, les infections respiratoires aiguës, mais partie également de là pour mettre l'accent sur la promotion et la prévention d'un certain nombre d'affections.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui au niveau de ce centre de soins un personnel suffisant et un personnel bien formé ?
Personnel bien formé, oui. Personnel suffisant, je dirais non. Quand vous allez aller dans les régions les plus reculées, vous allez vous rendre compte qu'il y a même des structures de santé où vous avez à peine un agent qualifié. Ici, nous en avons deux. Pour tenir un centre de santé comme celui-là, il faut plus d'agents qualifiés.
Et au niveau national, le ratio, la proportion d'agents atteint moins de 4,5 pour 10 000 habitants. On est loin, hein, très loin des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui préconise la présence d'au moins 23 agents de santé pour 10 000 habitants. Des carences qui justifient ce recours à des agents non professionnels. Professeur Christiane Chabou-Aguémon, chef de service adjointe de la clinique de gynécologie et d'obstétrique du CHU Hubert Koutoukoumaga à Cotonou.
Dans beaucoup d'hôpitaux, il y a un problème. On n'a pas les agents qualifiés, surtout quand on va dans les coins les plus reculés. On n'a pas les agents qualifiés parce qu'il n'y en a pas suffisamment au niveau de la fonction publique.
Est-ce que c'est une problématique qui est propre aux zones rurales ou est-ce que c'est aussi une problématique qu'on peut rencontrer dans des zones urbaines comme Cotonou ou Porto Novo par exemple?
Évidemment, c'est beaucoup plus rencontré dans les zones rurales, mais en pleine ville de Cotonou, il y a encore ces délégations de tâches, pas par nécessité, mais c'est beaucoup plus par un peu fuite de responsabilité de certaines personnes responsables des centres de santé. Parce qu'ils ne veulent pas rester au niveau de leur poste, ils ont d'autres obligations. Et ils sont obligés indirectement de laisser la personne inférieure gérer les pathologies qu'elle devait faire. Je pense que dans les milieux urbains, c'est beaucoup plus une fuite de responsabilité. Et dans le milieu rural, c'est une délégation de tâches par nécessité.
Alors justement, comment expliquer ce particularisme du Bénin, le manque de ressources en termes de personnel de santé? Pourquoi le Bénin est-il si pauvre en médecins?
En fait, on n'est pas pauvre en médecins, c'est le recrutement au niveau de l'État qui ne suit pas. Les recrutements prennent du temps. On recrute après 5 ans, 2 fois après 6 ans. Alors que pendant ces temps, il y a des agents de santé qui sont partis à la retraite. Donc du coup, ce vide créé et le défaut de recrutement au niveau de l'État, indirectement, ça entraîne cette délégation de tâches.
Le Bénin, un pays où un malade sur 5 est hospitalisé pour traiter le paludisme, un pays jeune aussi, près de la moitié de la population a moins de 15 ans. La structure de soins où nous nous trouvons, ce centre de santé de Ounli, est placé sous la responsabilité directe d'Aude Bohoun, chef du dispensaire. Sage-femme, elle est titulaire et travaille au quotidien avec l'infirmière Charlotte Abaou. Toutes les deux résident sur place, de jour comme de nuit, et c'est Aude Bohoun qui nous guide. Une visite qui commence par la salle de naissance. Donc là, on a deux tables de travail, c'est ça?
Oui, deux tables d'accouchement. On a un lit. On a un chariot, nous avons les boîtes d'accouchement, la boîte d'épisiotomie, des tambours de compresse, l'aspirateur électrique, le condensateur d'oxygène, les pèses bébés. Là, on devrait la table chauffante, le stéthoscope, tout ce qu'il faut pour faire un travail sûr et propre.
Alors, le dernier accouchement remonte à quand?
Le dernier accouchement s'était fait hier le 6 mars 2018 à 17h45 précisément. Le travail s'est déroulé normalement, on n'a pas eu de problème. Le bébé a pesé 2,8 kg, c'est une petite fille, c'est un premier bébé.
En général, ici par semaine, vous mettez au monde combien d'enfants?
On peut aller jusqu'à 4-5 des fois, ça dépend du temps. Il y a des temps où l'accouchement est favorable, il y a des moments où on a eu beaucoup d'accouchements. Dans les mois de mai, juin jusqu'à août, comme ça, l'accouchement, on en a jusqu'à 30 dans le mois. Mais des fois, dans ces temps-ci, il y a un peu moins d'accouchements. Le mois dernier, on a fait 17. Donc.
Est-ce que vous pouvez ici pratiquer des césariennes?
Non, pas du tout. Nous ne faisons que les soins de base.
Alors justement, quand ça ne se passe pas comme on aurait voulu, quand le bébé tarde à venir, qu'est-ce que vous faites? Comment vous réagissez?
Quand il y a une souffrance fœtale, on appelle le lieu de référence, soit c'est l'hôpital de zone, ou bien soit c'est le CHT. Comme l'ambulance tarde à venir, on appelle souvent le véhicule de supervision de notre médecin coordonnateur qu'on sollicite et il vient nous aider.
Qui est dans la pièce quand la mère accouche? Vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour vous assister?
J'ai eu une aide qui était là. Hier, l'infirmière aussi était là avec moi. Donc, on a fait le truc ensemble.
C'est un travail d'équipe, on se sent plus rassuré. Est-ce que vous doutez encore aujourd'hui? Est-ce que quand vous arrivez, la maman arrive, le travail est engagé? Vous êtes sûr de vous? Il y a des moments, malgré tout, où on sent un petit peu qu'il y a des risques et on a un petit peu peur pour ce qui va se passer?
Par rapport à l'accoucher d'hier, quand elle était venue, la tension est un peu élevée. Elle a des œdèmes aux membres inférieurs. Mais il a fallu qu'on fasse l'examen des urines. Et comme l'examen des urines est normal, on peut dire, ah, ça là, on peut tenter pour voir.
Et donc là, tout à l'heure, on va changer de pièce et vous allez nous faire découvrir ce bébé que vous avez mis au monde hier. Comment il s'appelle?
Le bébé n'a pas de nom, pas pour le moment.
Mise au sein, surveillance pour éviter les risques hémorragiques chez la jeune accouchée, vaccination des premières heures, contrôle de la température du nourrisson. Aujourd'hui, près de 87% des bébés voient le jour dans un centre de santé au Bénin. La sage-femme Aude Bohoun nous emmène jusqu'à la chambre que se partagent des futures mamans et les accouchés. Elle est meublée d'une dizaine de lits, équipée de moustiquaires. Des ventilateurs tournent au plafond. La sage-femme nous présente une jeune maman. Elle s'appelle Gladys et elle a 19 ans.
Nous arrivons dans la salle d'hospitalisation. On soulève la moustiquaire. Oh, il y a un tout petit bébé. Ce bébé a quel âge ?
Le bébé est âgé 1 aujourd'hui, moins de 24 heures. Elle était née hier à 17h45.
Donc le bébé est arrivé hier, vous vous sentez comment aujourd'hui ?
Ça va, oui.
Pas de douleur, tout s'est bien passé ?
Tout s'est bien passé.
Quand vous êtes arrivé ici au centre de soins, vous étiez en confiance ou vous aviez un petit peu peur ?
Non, ça s'est bien passé.
Vous étiez venu plusieurs fois avant d'accoucher, justement, pour les visites ?
Oui, plusieurs fois.
Vous avez appris les signes qui disaient que le bébé s'annonçait et que la naissance arrivait ?
Oui, j'ai appris ça.
Est-ce qu'on vous a aussi appris comment réagir quand, justement, le bébé va sortir pour pousser, pour retenir et pour prendre votre respiration ?
Oui, les tantines m'ont aidé.
Les tantines, ce sont les sages-femmes, l'infirmière qui est là. Alors, vous allez faire mon interprète. Donc, vous êtes l'infirmière ?
Oui, moi, je suis infirmière. Je suis à Pau-Charlotte, infirmière au CS Conly, ici.
Alors, je voudrais savoir comment ça s'est passé et maintenant, si elle a tout compris de l'allaitement et si pour elle, pour rentrer chez elle, elle se sent en confiance, justement, pour continuer à donner le sein à son bébé.
Maintenant, je peux allaiter mon enfant. Parce que hier, la sage-femme m'a appris comment allaiter mon enfant sur la table d'accouchement.
Ce bébé, c'est votre premier enfant. Est-ce que vous avez déjà une idée pour savoir si après, vous en voulez un autre bientôt ou si vous voulez attendre et donc prendre éventuellement une contraception pour que l'autre y vienne plus tard ?
Au moins 3 ans.
Au moins 3 ans avant le prochain bébé. Donc, la méthode qui sera utilisée pour le premier temps après l'accouchement ?
Pour le premier temps après l'accouchement, elle va utiliser la mama. C'est la méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée. Donc, elle va allaiter son enfant exclusivement au sein. Et pour cette méthode-là, il faut respecter 3 conditions. Il faut que la femme soit en aménorrhée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu retour de couche. Il faut que l'enfant ait moins de 6 mois. Et il faut que l'allaitement maternel soit réellement exclusif. Donc c'est ça qu'on a dit. Et dès qu'il y a automatiquement retour de couche, on la met sous une méthode contraceptive, soit de courte durée ou soit de longue durée, selon ce qu'elle aura à choisir.
Quand on dit exclusif, ça veut dire juste le lait maternel.
Juste le lait maternel, à l'exception uniquement des sirops, pas d'eau, pas de tisane.
À part éventuellement les vitamines.
Les vitamines. On avait dit ça hier, donc elle a accepté de faire pratiquer la mama en attendant le retour des couches.
Ces explications de la sage-femme Aude Bohoun, et après 2 jours à la maternité, eh bien ce sera le retour au village pour Gladys et sa petite fille. La prise en charge des premiers jours de la vie, prévenir la malnutrition, agir pour limiter la transmission du VIH de la mère à l'enfant, équiper les foyers en moustiquaires imprégnées, c'est dans ces centres de soins que l'on supervise l'action des relais communautaires. Ils viennent donc s'y faire évaluer, se réapprovisionner en médicaments et aussi percevoir leur indemnisation. La zone sanitaire Djidja Abomey Agban Nyanzoun représente plus de 332 000 habitants. Un total de 470 agents de santé communautaire y sont déployés. Ces relais travaillent auprès des populations qui vivent à plus de 5 km du centre de santé, justement. C'est le cas du village de Kodi, 400 habitants au total. Et à Kodi, eh bien, le relais communautaire s'appelle Crespin Ganzo.
Oui, il y a 3 cas ici. Le registre de prise en charge des enfants malades, le suivi des femmes enceintes, des accouchés récents, du nouveau-né. Tout est dans ce document ici-là.
Aujourd'hui, il y a combien de grossesses dans le village ?
Nous en avons 3 actuellement. Voici une qui est devant nous. Elle est dans son 8e mois.
Donc, les choses se rapprochent.
Oui. Bientôt, on va voir si c'est un garçon ou bien c'est une jeune fille qu'elle va nous faire. Si elle ne s'est pas accouchée dans le mois, là, je vais revenir et faire la visite.
Elle sait exactement comment il faut réagir si quand elle aura les contractions.
Oui, elle connaît les signes. Chaque fois, même aujourd'hui, je lui ai rappelé tous les signes.
Crespin Ganzo qui passe de maison en maison, sac en bandoulière à l'intérieur, ses précieux cahiers, des tests, une boîte aussi pour collecter les pansements et produits usagés et les traitements pour les trois maladies prises en charge, paludisme, infection respiratoire aiguë et diarrhée. Les mères installent un banc devant la maison, l'enfant est examiné et le relais, lui, coche les questionnaires médicaux.
Ici, il y a la date que j'ai mis. Il y a accouché vivant, je l'ai vue, elle est devant moi, donc elle est vivante. Et date d'accouchement, oui, j'ai mis. Accouché au centre de santé, elle a effectivement accouché dans un centre de santé, donc c'est coché. Elle a fait les 48 heures à l'hôpital, donc j'ai coché. Elle a reçu 2 doses de VAT. J'ai coché oui. Accouchée a effectué au moins 4 visites prénatales pendant la grossesse. Elle a accouché le 11. Elle a fait 2 jours à l'hôpital avant de venir. Donc le 13, elle a été visitée. Le 15, elle a été visitée. Donc c'est la 3e visite ça.
Et pour cette jeune femme, tout va très bien.
Elle va très bien. L'enfant se porte bien. Il n'y a pas de problème.
Un relais communautaire particulièrement méticuleux. Alors comment a-t-il été choisi? Et est-ce que la communauté, les gens du village, sont satisfaits de lui? La réponse d'Albert Ronoui, conseiller du village.
Ils ont
dit qu'ils sont très très contents. Et si éventuellement il y a encore un autre poste de responsabilité, qu'il faut choisir un relais et le hisser, ils allaient porter le choix sur Crespin.
Qu'est-ce que ça a changé pour la population du village d'avoir un relais communautaire comme Crespin, mais d'avoir un relais communautaire tout simplement?
Il disait que si on prend par exemple le cas de Pardon, parce que c'est ça qui les embête plus dans le village, aujourd'hui, ils sont vraiment soulagés parce qu'à moindre fièvre, là, ils se rendent chez lui et ils sont satisfaits. Au moment où il n'était pas là, si tu souffres, tu as le corps chaud par exemple, tu dois te rendre au centre de santé. Ou bien, compte tenu des moyens de déplacement, tout ça, tu attends jusqu'à ce que la maladie te gagne définitivement.
Justement, définitivement, ça veut dire qu'avant, dans le village, on mourait plus de maladies avant.
Exactement. Les enfants meurent à cause de ça, autrefois, mais actuellement, c'est fini.
Choisir la bonne personne, celle qui gagne la confiance et le respect au village. Alors c'est quoi au juste un bon agent communautaire? Élément de réponse avec le docteur Gabriel Djimonsaï, médecin coordonnateur de la zone sanitaire.
Un bon agent communautaire, c'est un agent qui est disponible, qui prenne en charge correctement, c'est-à-dire que qualitativement les cas, et qui réfère à temps ces cas-là pour éviter des cas de décès.
Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui vont au-delà de leurs prérogatives et qui, une fois au village, prennent des décisions qui vont peut-être parfois au-delà de leurs compétences?
Je n'ai pas dit non, mais c'est très rare.
Et comment on fait la part des choses quand on a justement une médecine traditionnelle, des savoirs enseignés par les générations précédentes, ce qu'on a connu depuis qu'on est tout petit? Est-ce que vous leur donnez dans le cahier des charges? Comment on fait la part des choses entre les habitudes et ces choses qu'on a apprises au centre de soins?
Vous savez qu'ils ont suivi prévention, ils ont un cahier de charge. Et ils ont un registre. Et c'est par rapport à ce registre-là qu'ils administrent des questions à leurs patients. Secondo, nous, le ministère de la Santé, est en partenariat avec les praticiens de la médecine traditionnelle. On les appelle les PMT. S'il y a des cas qui nous échappent, des cas rares, donc on peut échanger avec ces praticiens de la médecine traditionnelle. Parce que c'est une structure qui est reconnue par l'État et qui est en partenariat avec le ministère de la Santé.
Donc c'est en complémentarité, ce n'est pas en opposition?
C'est pas en opposition. Même il y a d'autres praticiens de la médecine qui sont relais communautaires. Mais la première des choses, ils utilisent ce qu'on leur a appris d'abord. C'est la médecine moderne d'abord.
On va se retrouver afin de poursuivre la tournée du relais communautaire Crespin Ganzo dans son village de Cody. Reportage dans le centre du Bénin. On se retrouve donc juste après le point de l'actualité.
Priorité santé. Caroline Paré.
se retrouve pour la seconde partie de Priorité Santé pour la suite de notre reportage dans le centre du Bénin. Et nous allons, maison après maison, accompagner la tournée de Crespin Ganzou, relais communautaire appuyé par l'UNICEF. Ses agents prennent en charge les trois principales maladies tueuses de l'enfant, le paludisme, la diarrhée et les infections respiratoires aiguës, de redoutables pathologies qui, on va le voir, constituent des menaces aussi graves que fréquentes pour les moins de 5 ans. Le relais est particulièrement attentif à l'état des femmes enceintes et des jeunes mères, préoccupées aussi par la croissance et la nutrition des enfants. Crespin Ganzou est venu prendre des nouvelles de la petite Belvida, tout juste 3 ans. Elle se remet d'une fièvre. À l'aide d'un bracelet gradué, il prend une mesure entre l'épaule et le coude de la petite fille.
Nous allons voir son périmètre brachial pour voir si c'est dans le vert ou c'est dans le jaune. D'accord.
Donc là, c'est un indice de croissance. Hein. Vous êtes en train de prendre...
Je suis en train de chercher le milieu de bras là. C'est là où on prend le périmètre brachial.
Qui vous a appris à faire ça?
C'est les tantes à la formation.
Vous avez de la chance parce que votre patiente, elle est très calme, hein, cette petite fille.
Oui, elle est déjà habituée. Elle est habituée. Donc, elle est dans le vert.
Elle est dans le vert. Donc, oui. Ça veut dire qu'elle a une bonne croissance. Il n'y a pas d'inquiétude sur...
Sur son alimentation. Ça va bien.
Donc là, vous remplissez les différents renseignements.
Oui, qui concerne l'enfant. Prend plus de 8 tétés par jour, elle ne tète plus. Donc, je mets non. Boire autre aliment, boisson. Donc, elle peut boire de l'eau, de quoi là. Là, je mets oui. Elle est exposée au gavage biberon, non. Alimentation de compléments adéquats. Elle peut manger tout ce qu'elle veut. Je mets oui.
Belvida est dans la zone verte, ce qui signifie que son alimentation est satisfaisante. Et la tournée continue. On quitte le premier hameau, toujours en compagnie de Crespin Ganzou.
Il y a 500 mètres qui nous séparent de l'autre village. C'est le même village, Kodi, c'est pas tout.
Il y a combien de maisons là-bas?
Il y a 2 maisons.
On y va. Et vous allez visiter combien de mamans là-bas?
Nous avons 4 mamans à visiter.
Donc, quand on dit des maisons, c'est des foyers. Mais en fait, il oui. Y a plusieurs familles qui habitent dedans.
Oui.
Donc, il y a combien de familles là-bas?
Il y a 4 familles.
4 familles.
Oui.
Ici, les gens, c'est quoi leur activité? Ils vivent de quoi?
Bon, c'est les travaux champêtres qu'on fait ici. Hein. Que ça soit femme ou homme là.
On récolte quoi?
Du maïs, du mil, sorgho, haricots, arachides, c'est... Et ça, on fait.
C'est pour la consommation locale ou c'est vendu au marché?
Oui, ils consomment et ils vendent aussi au marché.
On s'arrête devant une autre maison où l'agent communautaire retrouve une jeune maman de 2 enfants. Elle allaite le petit de 10 mois, l'aîné à 5 ans, et la mère, elle, n'a que 20 ans. Toute la famille se porte bien, la tournée se poursuit, et à quelques dizaines de mètres de distance seulement, une vache est assoupie à côté d'une cabane dédiée à un fétiche, un foyer... Des braises sur lesquelles du lait caillé est en train de chauffer. Et une autre famille, la maman a 4 enfants et sa dernière a de la fièvre.
Et elle me dit que son enfant est en train de chauffer. Donc je vais profiter de cette occasion pour voir ce qui a causé la fièvre au niveau de l'enfant. Donc,
cette maman, elle a combien d'enfants?
Vinamiado. 4 enfants.
Elle a 4 enfants. Je vous laisse faire. Crespin, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire?
Oui, comme l'enfant chauffe là, je vais vérifier la présence du corps chaud. Je vais voir si c'est effectivement les moustiques qui l'ont piqué.
À l'aide de quel instrument, à l'aide de quel matériel?
Ah, ceci, c'est le TDR, le test de diagnostic rapide. Avec ça, on voit si l'enfant a le paludisme ou bien quoi là.
Résultat immédiat, comment ça se passe?
Immédiat, oui. Avec quelques 15 minutes là maintenant, nous allons voir ce que ça a donné. Ici, c'est une solution. Et quand je prélève le sang, je mets ça sur le TDR ici, le sang à sa place là. Et après avoir mis le sang, j'ajoute la solution. Et les deux vont me donner un résultat.
C'est quoi? C'est une couleur qui va changer? Qu'est-ce qui va apparaître?
Bon, quand je mets la solution, le sang et la solution passent. Et ça, si ça donne 2 traits, ça veut dire que c'est positif. Ça veut dire qu'on va traiter le paludisme à l'enfant là.
Est-ce qu'il y a une moustiquaire à l'intérieur de la maison pour protéger l'enfant quand il dort?
Oui, elle a une moustiquaire.
Je vous laisse faire alors.
D'accord.
Donc on sort les différentes choses de la boîte qui est prévue à cet effet. Il va falloir piquer le bébé. On pique sur le doigt, c'est ça?
Oui, sur le doigt.
Sur le doigt. Donc on stérilise avant. Donc vous désinfectez pour que le doigt soit bien propre.
Ça, c'est un coton qui a déjà de l'alcool avec lequel je nettoie le doigt de l'enfant pour désinfecter, quoi. Mm-hmm. Donc, après le nettoyage, je vais prélever le sang. Et en même temps, j'ajoute la solution. Maintenant, on attend quelques minutes pour voir le résultat que ça va nous donner.
On voit la solution mélangée au sang qui s'étale sur le buvard.
Oui, oui.
Et on va voir s'il y a un signe qui apparaît pour avoir le diagnostic.
Oui, c'est ça. Donc, nous allons attendre 15 minutes pour voir le résultat.
Cet examen-là, quand maman dit qu'il y a de la fièvre, il est à la charge de qui? Qui va payer cet examen?
Bon, cet examen, il est subventionné par l'UNICEF. Donc si l'enfant a la fièvre, le test nous démontre. Là, le CTA qui traite le paludisme chez les enfants, l'UNICEF les a donnés gratuitement. Donc, si le test nous présente le paludisme maintenant, je vais lui donner les médicaments qu'il faut. Et l'enfant prend la première dose devant moi. Et je serai sûr que ça va finir.
Est-ce que vous avez des médicaments adaptés aux tout petits? Comment le bébé prend le médicament? Est-ce que c'est en solution liquide?
Oui, on écrase les médicaments dans une cuillère et on donne là à l'enfant.
Quelques minutes d'attente pour la lecture du diagnostic et c'est le verdict.
Le test nous a donné deux traits. Ces deux traits qui veulent dire que l'enfant est positif, elle est une porteuse de paludisme et nous devons traiter le palud à l'enfant. Avec ce que le test nous a donné maintenant, là, j'ai les médicaments ici qui peuvent traiter rapidement cela et avec ça,
elle va être assurée.
Elle va, voilà.
Résultat positif, prescription du traitement antipaludique et du paracétamol. Et Crespin Ganzou explique aussi à la mère que si son bébé a contracté la maladie parasitaire, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas systématiquement fait dormir l'enfant sous sa moustiquaire.
Maintenant, pour être sûr, je donne la première dose moi-même. Ou bien la mère donne ça à l'enfant devant moi. Là, je serai sûr que les prises de médicaments ont commencé effectivement. Maintenant, les médicaments se donnent selon l'âge de l'enfant. Ici, c'est CTA. C'est avec ce médicament-là. À l'appui du paracétamol, on traite le paludisme. Et rapidement, l'enfant est guéri. Il y a une visite de contrôle. Je vais passer demain pour voir si la maman donne bien les médicaments comme je lui ai dit. Maintenant, je lui ai montré comment elle va donner les médicaments à l'enfant. La dose normale qu'il faut pour que l'enfant soit en bon état. Ceci, c'est un le matin et un le soir, durant 3 jours. Maintenant, selon l'âge de l'enfant, et la paracétamol, elle prend le quart. Donc on prend l'unité, on divise ça en 4 parties, et tous les 6 heures, elle lui donne le para. Ceci est là pour calmer, pour faire disparaître la fièvre. Sa maman nous dit qu'elle souffre aussi de la diarrhée. Et comme ça, nous n'allons pas traiter seule la fièvre et laisser la diarrhée. Comme ça, nous allons en même temps traiter la diarrhée pour que l'enfant soit en bon état.
Alors, quel est le traitement que vous lui proposez?
Bon, pour traiter la diarrhée, il y a Oracel et Zinc. Avec Oracel, il y a une solution d'eau que nous préparons.
Solution de réhydratation que vous mettez dans une bouteille?
Oui, il y a une solution de réhydratation. Et on prend 1 litre d'eau, on ajoute un sachet de Oracel. Et c'est ça que l'enfant va boire à tout moment. Maintenant, le comprimé de zinc, c'est ici. Elle prend un comprimé par jour pendant 10 jours. Donc, en 10 jours, elle va finir la plaquette là. Et la diarrhée aussi sera traitée. Voilà.
Maison après maison, entretien après entretien, les questionnaires se succèdent. Crespin Ganzou anime aussi des séances éducatives, donne des conseils en termes d'hygiène ou d'alimentation. Éviter les réserves d'eau où les moustiques peuvent proliférer ou encore éloigner les ordures des zones d'habitation. La visite du relais communautaire se poursuit au bout du chemin, bordé de troncs de teck. Dernière portion du village, c'est la troisième maison. Crespin Ganzou s'installe. Dans les bras de la maman, un bébé qui tousse. Il s'agit alors pour l'agent d'appliquer la procédure de dépistage de la pneumonie.
Le bébé tousse. Donc comme ça, nous allons compter sa respiration pendant une minute pour voir si le mouvement respiratoire est rapide ou bien c'est pas rapide, on va voir.
Quelle est la maladie que vous recherchez là en faisant ce décompte de ses respirations?
Si c'est de la pneumonie, on va traiter.
Avec un traitement à base de quel produit actif?
C'est avec amoxicilline, on traite la toux chez les enfants.
Et là, vous avez fait le calcul, vous en avez conclu quoi? Que ce petit bébé de 3 mois était malade ou n'était pas malade de cette pneumonie?
Quand j'ai compté ça, son mouvement respiratoire maintenant, c'est 53 mouvements par minute. Maintenant, je vais voir avec quoi ça correspond ici.
Questionnaire détaillé et toujours les cahiers qui sont à la fois des outils et des garanties de respect du protocole. Pour le docteur Soliou Badarou, c'est aussi une sécurisation supplémentaire de cette prise en charge.
Étant donné que ce ne sont pas des agents de santé qualifiés, on fait tout pour garder cet aspect didactique, donc ils ont des outils qui leur permettent de prendre des décisions. Lorsqu'il a fini de compter le mouvement respiratoire, il va se référer à son tableau de classification en identifiant d'abord la tranche d'âge de l'enfant, ensuite en regardant, en situant le nombre de mouvements respiratoires qu'il a compté par minute, et il a la réponse dans son cahier plutôt que de mémoriser les réponses.
En même temps, ça le sécurise, en même temps, ça rassure le corps médical.
Ça le sécurise. Ça rassure le corps médical et ça assure la qualité des soins qu'il va apporter à l'enfant. Parce que pour peu qu'il fasse une erreur, il peut faire passer, traiter une pneumonie qu'il n'y a pas. Et comme ce sont des antibiotiques qu'on met à leur disposition, ils vont créer des résistances inutiles au sein de la communauté. Et pour éviter ça, parce que ça a été une longue bataille avec les professionnels de santé pour qu'ils acceptent qu'on mette des antibiotiques à la disposition des agents de santé communautaires. Je voulais peut-être souligner également qu'avant, c'était de l'amoxicilline simple que nous donnons aux enfants. Et ça posait les problèmes pour les casser en de petits morceaux, surtout pour les enfants plus petits. Et maintenant, c'est de l'amoxicilline dispersible à une dose beaucoup plus faible pour les enfants. Donc, du coup, ils n'ont plus à manipuler de l'amoxicilline 500 mg qui était destinée aux adultes et qu'ils devaient casser en de petits morceaux pour pouvoir soigner les enfants. Le principe ici, c'est de calculer la dose qu'il faut pour l'enfant et pour la durée du traitement exclusivement. avec des visites de suivi à domicile, comme il vous l'a dit tantôt. Une fois que le cas est diagnostiqué, traité, il faut qu'il repasse dans le ménage pour s'assurer que la maman prend les médicaments comme ça se doit. Et ce n'est pas seulement poser la question au maman, c'est de regarder la plaquette pour voir le nombre de comprimés qui restent et s'assurer qu'effectivement la maman a donné ses médicaments à son enfant. Et parallèlement, bien sûr, à la fin du traitement, on éduque la maman sur les signes de gravité qu'il faut observer et devant lesquels la maman doit appeler immédiatement le relais communautaire. Et dans le cas d'un symptôme comme la toux, un des signes de gravité ou de danger qui va faire que la maman va faire appel au relais communautaire, c'est bien sûr la gêne respiratoire. Lorsque la maman qui a un enfant qui tousse, elle doit surveiller, est-ce que mon enfant respire bien? Est-ce que la respiration ne devient pas plus rapide? Est-ce que l'enfant n'a pas des difficultés respiratoires?
Crespin Ganzou reprend l'interrogatoire et le verdict tombe. Le décompte des mouvements respiratoires révèle que le bébé est bien atteint d'une pneumonie. Aussitôt, le traitement est délivré.
La bébé tousse. Et quand elle tousse, selon le registre, pour un enfant de 2 mois à 12 mois, on lui donne un demi-comprimé de amoxicilline de 150 mg, là, le demi-comprimé matin et soir pendant 7 jours. Donc, ce qui a été fait, elle a pris la première dose. Maintenant, le reste, la maman va continuer, on va suivre avec elle. Et durant 7 jours, on va voir si...
Est-ce que vous donnez des conseils par rapport à son petit frère pour pas qu'il attrape la pneumonie, parce que c'est contagieux la pneumonie, le lavage des mains, etc., faire bien attention à ça?
On lui a donné tous les conseils. Comment habiller les enfants pour protéger les enfants contre les iras. Tout a été dit comme conseil. Et elle a compris. Maintenant, les signes de danger, on les a cités. Quand elle sent un signe de danger chez un enfant là, rapidement, elle n'a qu'à s'y aller. Et on va voir si on peut traiter ou bien le référer.
Alors être relais, c'est davantage une mission qu'un travail au regard de la rémunération qu'il touche. Aujourd'hui, Crespin Ganzou perçoit 30 000 CFA par trimestre. Cela représente à peine 15 euros par mois. Autant dire que même si cette charge lui prend beaucoup de temps, il doit occuper un autre emploi pour s'en sortir. Mais aucun doute sur son engagement, hein. Cette charge, Crespin Ganzou en est fier, très fier.
Je suis tellement content d'être relais aujourd'hui parce que ça m'a donné beaucoup de choses.
Alors, ça vous donne beaucoup de choses sur le plan humain. Est-ce que ça vous donne beaucoup de choses sur le plan financier?
Bon, sur le plan humain d'abord. Sur le plan financier, bon, je peux dire que ça donne, mais c'est insignifiant, c'est un peu insignifiant. Si vous, l'UNICEF peut revoir un peu notre situation, là, nous serons très contents. Mais sur le plan humain, il n'y a pas de problème. Je suis très content. Parce que quand je vois les petits-enfants souffrent du paludisme ou bien de la diarrhée, j'ai les médicaments et avec un moindre coup, je les traite et c'est calmé. Au lieu d'aller faire des dépenses inutiles à l'hôpital avant que le palud soit traité, avec l'aide de l'UNICEF, les CTA sont donnés gratuitement. Même avec 200 francs, 100 francs, ils se font soigner, l'enfant est bien.
Vous disiez tout à l'heure insignifiant, si ce n'est pas indiscret, vous êtes payé combien pour votre travail?
Bon, avant quand j'ai commencé, c'était à 15 000 le haut trimestre. Pour celui-là qui a 100%, qui a fait bien son travail. Maintenant aujourd'hui, c'est un peu amélioré, nous sommes à 25 000 par trimestre maintenant. C'est pour celui-là qui a bien fait son travail, qui a 100%, qui a fait bien ses visites domicile et autres là.
Donc, on peut le dire qu'il y a une part de bénévolat. Ça veut dire qu'à côté, vous devez travailler. Vous faites quoi?
Bon, à part le travail du relais, je suis un agent de sécurité. Je suis un agent de sécurité. Donc, je gagne un peu là-bas. Et par chance, quand celui du relais arrive, on prend ça. Et avec les deux, je me débrouille.
Je vais vous laisser faire la fin de votre visite. J'ai une dernière question. Ça vous prend combien d'heures par semaine? Votre travail de relais?
Bon, ça varie. Parce que tu peux faire ton programme d'aller à quelque part et subitement, on t'amène un malade pour dire, ah, traite-moi ce malade-là. Et là, ça change ton programme.
Mais c'est quoi? C'est à peu près une journée par semaine, une demi-journée par semaine? C'est quoi à peu près?
Par semaine, il faut te sacrifier pendant 2 à 3 jours comme ça pour le travail de relais. Oui. Parce que tu auras visité les ménages chaque jour même. Donc, parce que tu ne peux pas visiter tous les ménages aujourd'hui. Tu fais le minimum aujourd'hui, demain, ou bien après-demain, tu reprends les autres, et ainsi de suite.
Mais comment vous organisez justement avec votre travail d'agent de sécurité? Vous faites comment?
Oui, ça, je vois mon calendrier. Si je ne suis pas de garde, là, je prends mon temps, je fais les visites à domicile, je traite les malades. Même quand je suis là-bas, il y a un cas grave, on m'appelle, je dis... J'appelle mon superviseur, mon contrôleur, je dis, ah, j'ai un cas à traiter. Ils connaissent aussi que je suis un relais qui est souvent pris par le temps. Et quand je les appelle, on dit, ah, je vais ramener un agent qui va te remplacer. Et rapidement, je viens, je traite les malades.
Et encore 30 000 CFA par trimestre, c'est seulement depuis quelques mois. Car jusqu'en décembre dernier, Crespin Ganzou devait se contenter de 25 000 CFA. Si les relais communautaires font leurs preuves sur le terrain, en termes de prévention et de prise en charge des trois grandes pathologies infantiles, l'insuffisance de la rémunération des agents ne fait pas débat, comme l'explique aussi le docteur Soliou Badarou de la section survie et développement de l'enfant à l'UNICEF Bénin.
La première chose qu'il faut améliorer, c'est surtout le paiement des primes de motivation de ces relais communautaires, fortement dépendant de l'appui des partenaires techniques et financiers. Un plaidoyer actuellement en cours avec la partie nationale pour que cela soit pris en compte par l'État béninois, qui est pour moi un gage de pérennité à long terme en fait. Parce qu'il ne faudrait pas que cela soit dépendant totalement de l'appui financier des partenaires techniques et financiers. La deuxième chose qu'il faut améliorer, c'est que la directive nationale prévoit maintenant qu'il y ait des agents de santé communautaire qualifiés. C'est-à-dire, par village, il va avoir un agent de santé qualifié qui va s'occuper des aspects de prise en charge. Et ce que nous appelons aujourd'hui relais communautaire s'occuperont désormais des aspects de promotion et de prévention dans le domaine de la santé. Je crois que ça va être une innovation ou un apport pour améliorer le système actuel. La troisième chose qu'il faut améliorer avec ces agents de santé communautaires, c'est la promotion des pratiques familiales essentielles. Ça fait partie systématiquement de leur paquet de formation, mais il y a tout un travail à faire pour que cela puisse prendre. Parce que je vous ai donné, lors de nos entretiens passés, l'exemple de la diarrhée. Rien que se laver la main, assainir son environnement, peut permettre de réduire des cas de diarrhée. Donc ainsi, avec un fort impact sur la réduction de la mortalité chez les enfants.
Précisément, est-ce que vous avez des moyens d'évaluer l'action des relais communautaires sur la mortalité néonatale et infantile, surtout peut-être de la mortalité infantile dans les 5 premières années de vie?
C'est le challenge. Nous avons fait une évaluation des activités de santé communautaire globalement dans les régions que nous avons appuyées ces 6 dernières années. Nous avons obtenu un certain nombre de résultats encourageants, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour pouvoir déterminer la part du système communautaire dans la réduction du système, de la mortalité infanto-juvénile. Alors, si même vous avez une tendance à la baisse du taux de mortalité infanto-juvénile au Bénin, la mortalité néonatale devient toujours stagnante. Donc, prend une part importante dans la mortalité des moins de 5 ans. Donc, un gros effort actuellement, c'est de pouvoir cibler les affections néonatales, tant au niveau des formations sanitaires qu'au niveau communautaire. Imaginez par exemple que la mortalité des nouveau-nés fait à peu près 33% de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Ça veut dire quoi? Même si on a une tendance à la baisse, quoi qu'en chiffre absolu, on ne peut pas l'affirmer, de cette mortalité des enfants de moins de 5 ans, si on ne travaille pas sur la composante nouveau-né, on aura toujours à peu près un tiers de cette mortalité qui sera due au décès des enfants de 0 à 1 mois.
Je voulais avoir des informations sur le maillage territorial de ces relais. Est-ce qu'on en trouve dans tout le Bénin?
À cette date, à cette heure, nous avons des relais communautaires sur l'ensemble du territoire béninois. Et la dernière cartographie qui a été faite il y a 2 ou 3 ans fait état de 12 000 relais communautaires pour le Bénin. Mais il faut dire que l'ensemble des relais communautaires ne prend pas forcément en charge pour toutes les pathologies. Mais la tendance actuellement est qu'il n'y a plus de relais communautaires qui s'occupent que d'une maladie. parce qu'à un moment donné, on a eu des relais communautaires qui s'occupent que du paludisme. Mais depuis 2 ou 3 ans, l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le ministère de la Santé se sont alliés sur la politique nationale qui fait obligation à tout le monde de pouvoir mettre un relais communautaire au-delà de 5 km d'un centre de santé.
Crespin Ganzou, bien noté au cours de ses évaluations, est capable de faire la part des choses entre ses obligations envers sa communauté et la collectivité médicale. Un relais dont la disponibilité, la reconnaissance et l'utilité publique sont inversement proportionnelles au niveau de ses émoluments, maillon aussi modeste que primordial pour atteindre le 3e objectif de développement durable en matière de santé maternelle, néonatale et infantile. Relais communautaire dans le centre du Bénin, un reportage réalisé par Didier Bleu et Bertrand Éclair avec Ophélie Lassène et le précieux concours des équipes de l'UNICEF et du Fonds des Nations Unies pour la Population à Cotonou, avec le soutien du Fonds français Muskoka pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Demain, dans Priorité Santé, nous nous retrouvons pour parler de la maladie d'Alzheimer.
C'était Priorité Santé, avec Sunwa Assurance qui vous recommande d'avoir une épargne sécurisée pour assurer vos projets en toutes circonstances. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.